Vous écoutez France Culture.
Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les conférences de l'Université de tous les savoirs. C'est en 2000 qu'Yves Michaud fonda l'Université de tous les savoirs. Autour d'un thème d'actualité, l'UTLS, comme on dit, a accueilli depuis les penseurs, porteurs de recherches et de travaux les plus divers, afin de créer des carrefours, et donc des croisements de réflexion, apportant un maximum d'instruments savants et d'informations précises, issues de tous les domaines scientifiques, culturels, sociologiques, religieux, politiques, philosophiques, etc. Il s'agissait, en effet, d'analyser et de comprendre ce qui nous advenait avec les matériaux intellectuels et les points de vue les plus ouverts possibles. L'aventure UTLS prend fin cette année avec ce cycle consacré à la violence. Violence, comme l'écrit Yves Michaud, qui, individuelle ou collective, organisée ou sauvage, avec ou sans discours accompagnateur, réel ou représenté, fait partie de la vie des sociétés. Celle-ci, poursuit-il, l'organise, l'utilise, la circonscrive, la traite, la prévienne. En bref, la gère. Cette gestion a été, selon les époques, plus ou moins perfectionnée et plus ou moins réfléchie et théorisée. Fin de citation. Pour décloisonner les disciplines, l'Université de tous les savoirs a donc invité à cette toute dernière session, et comme elle l'a toujours fait, des spécialistes venus d'horizons différents. Ce soir, nous allons entendre les exposés de deux historiens. Le premier historien est président du centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre, basé à Péronne dans la Somme. Il s'agit de Stéphane Audouin-Rouzeau, qui a fortement contribué à renouveler l'historiographie de la Première Guerre mondiale, sur laquelle il a écrit de nombreux livres. Il a défini avec d'autres historiens français, allemands et anglais le concept de « culture de guerre », pour rendre compte du fait que les populations européennes aient supporté le terrible effort de guerre des différents États belligérants sans qu'il y ait la moindre révolte massive. Il nous parlera des violences de guerre et des pratiques de cruauté au XXe siècle. L'autre historien est une historienne. Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Nanterre, membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, historienne du culturel et des sensibilités, Anne-Claude Ambroise-Rendu travaille sur l'histoire des médias, du crime et de la justice et de leur rapport au XIXe et XXe siècle. Plus particulièrement, depuis quelque temps, elle travaille sur l'histoire des crimes sexuels sur enfants entre 1810 et 2010. Mais aussi, explique-t-elle, sur l'histoire de l'indignation et des émotions. Elle a publié un grand nombre d'articles sur ces sujets. Mais tout de suite, Stéphane Audouin-Rouzeau.
Dans le cadre de cette conférence assez brève, des tas de sujets seraient possibles. Je vais me concentrer sur deux d'entre eux. Le premier traitera des atteintes au corps, car c'est là, bien sûr, qu'est l'aspect central de la cruauté. Puis, j'aborderai une question difficile et particulièrement pénible, mais émergente dans les sciences sociales aujourd'hui, de même qu'elle émerge dans la conflictualité contemporaine, la question de la cruauté des voisins. Commençons par les atteintes au corps. Eh bien, ces atteintes au corps en temps de guerre constitue un immense éventail de pratiques à l'époque contemporaine. Je voudrais les dévoiler le plus discrètement possible. Il n'est pas question de transformer cette petite conférence en train fantôme. Je partirai d'un seul exemple, déjà qui est un exemple un peu connu des historiens en particulier, mais pas assez à mon goût, et qui sont les pratiques de cruauté déployées par les troupes américaines dans le Pacifique entre 1941 et 1945, là où Jess Glenn Gray, précisément, avait combattu. Je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait aucun malentendu, mon propos n'est nullement la preuve d'un anti-américanisme quelconque. Simplement, justement parce que les États-Unis sont une démocratie, eh bien, on connaît mieux pour ce pays les pratiques combattantes au XXe siècle que pour d'autres nations où les pratiques sont restées davantage cachées, davantage dissimulées. Et c'est un sujet donc bien étudié aujourd'hui par l'historiographie, notamment américaine. N'oublions pas aussi le contexte. La violence, cette violence américaine, est aussi une contre-violence, ou cette cruauté est également une contre-cruauté. N'oublions pas la violence déployée par les troupes japonaises et les formes particulières de leur cruauté, par exemple, lors d'une des grandes marches de la mort du XXe siècle, la marche de Bataan, qui donne d'ailleurs son nom à la notion même de marche de la mort, qui a eu lieu aux Philippines entre le 9 avril et le 1er mai 1942, où, pendant les 100 km de la marche, un quart des marcheurs donc, est mort d'épuisement ou de mauvais traitements, ou précisément de pratiques de cruauté. Également, on pourrait mentionner les pratiques de cruauté, bien sûr, dans les camps de prisonniers. Venons-en au contexte américain. Il faut avoir conscience ici de l'extrême violence des ordres émis par le commandement dès le début de la guerre du Pacifique. Le cri de guerre de l'amiral William Halsey, qui était le chef des opérations dans le Pacifique Sud, était le suivant : Kill Japs, kill Japs. Kill more Japs, tuer des Japonais, tuer davantage de Japonais. Et ce slogan était placé sur des panneaux, eux-mêmes panneaux que l'on trouvait sur certains bâtiments de la flotte américaine du Pacifique. Et dans une déclaration donc, à la presse américaine au cours de cette même année 42, l'amiral disait ceci à propos des Japonais : nous sommes en train de les noyer et de les brûler dans tout le Pacifique. Et ça fait exactement le même plaisir de les brûler que de les noyer. Vous voyez, noyer, brûler, vous voyez ici cette animalisation, cette chosification de l'adversaire et cette allusion au plaisir qui est évidemment pour nous très intéressante. La cruauté ici est présente, elle est d'abord verbale. Elle est verbale, mais le cri de guerre des troupes, par exemple à Tarawa, une île de l'archipel des Gilbert, où les Américains débarquent le 9 décembre 1942, le cri de guerre est lui-même s'aligne, au fond, sur ces consignes venues d'en haut. Kill the Japs bastards, take no prisoners. Tuez ces salauds de Japonais, ne faites pas de prisonniers. Et des unités sont félicitées pour n'avoir pas fait de prisonniers pendant le combat, tout simplement parce que les Japonais prisonniers ont été tués sur le champ ou tués lors de leur marche vers les enclos de regroupement, une pratique qui s'est généralisée très tôt pendant la guerre du Pacifique. La vision qu'ont les Américains de l'adversaire japonais est, à partir de 1942, une vision simiesque. On est dans le cadre d'une animalisation hostile, d'où le jeu de mots entre Japs et Japes. On appelle souvent les Japonais non pas Japs, mais Japes, pour mélanger le mot Japs et le mot Apes, qui en anglais, Apes, désigne les grands singes anthropomorphes. De grands singes bestiaux. De grands singes bestiaux, c'est d'ailleurs comme cela que les désigne l'amiral Halsey, alors que du côté japonais, les Américains sont rejetés du côté d'une sorte de démonologie. Et ces représentations auront une vie longue. On les retrouve ensuite en Corée, puis au Vietnam. Et ceci a pesé très lourd dans les atrocités commises par les troupes américaines, notamment lors de la guerre du Vietnam. Ces représentations, ces mots, ont un effet performatif considérable. Ils créent une porosité marquée avec la chasse, guerre et chasse. Le roi Gourand, donc le grand préhistorien, disait que la chasse était un doublet de la guerre. Et l'expérience du XXe siècle le montre éloquemment. Dimension synergétique ici, de kunegetein en grec, chasser, dimension synergétique, très marquée de cette guerre américaine du Pacifique, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples de cette dimension de chasse de la guerre. Et dans ce contexte, la guerre devient très fréquemment partie de chasse. Concours de tir sur les prisonniers, mise à mort au lance-flammes au milieu d'un cercle, par exemple. Ou là, on approche de la cuisson d'un gibier. Et les soldats s'adonnent en outre à une intense manipulation des corps. Je reprends ici une formule heureuse de l'anthropologue colombienne Maria Victoria Uribe dans son livre « Anthropologie de l'inhumanité ». Une manipulation des corps, là aussi inspirée du modèle cynégétique, inspirée de la pratique de chasse. Des coupes, par exemple, des coupes de la tête et conservation de celle-ci après ablation des parties molles et également du cerveau, avec envoi donc par les soldats des crânes japonais ainsi nettoyés à l'arrière, donc dans les familles. On dispose, et ceci n'est pas entièrement caché, dans la presse américaine de la guerre, on dispose par exemple dans Life, le grand magazine illustré de la guerre, le 25 mai 44, d'une photo aujourd'hui assez célèbre de Ralph Crane, prise le 1er mai 1944, et qui montre une femme, une jeune américaine, dont on connaît le nom, Natalie Necker, à qui son boyfriend, qui combattait en Nouvelle-Guinée, a envoyé un crâne japonais, et qui est d'ailleurs signé par l'ensemble des hommes de la section à laquelle appartenait son fiancé. On trouve également, toujours dans Life, une photo, par exemple, de Ralph Morse, prise à Guadalcanal, en février 1943, où la tête d'un japonais brûlé, visiblement, au lance-flammes, a été détaché du corps et placé sur un véhicule américain. Le problème pose aujourd'hui la question de la découverte, entre guillemets, de ce type de reliques, si j'ose dire, de ce type d'objets dans les familles américaines ou dans les douanes américaines où elles avaient parfois été saisies. Avec l'incompréhension des acteurs sociaux d'aujourd'hui et la difficulté de savoir ce qu'il faut faire avec de tels objets. Entre le temps de la paix aujourd'hui, même si cette paix est relative, et le temps de la guerre du Pacifique, un gouffre s'est ouvert qui fait que nos contemporains, les descendants de ceux qui avaient ramené ou avaient reçu ce type d'objet, ne comprennent plus comment un tel objet a pu parvenir jusqu'à eux et se trouver donc dans la maison d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père. Découpe de la tête, donc, mais aussi façonnage des os longs de l'ennemi, des fémurs en particulier, transformés très souvent en coupe-papier. Un soldat américain, ainsi tout à fait innocent de ce qu'il faisait, si je puis dire, en a envoyé un au président Roosevelt le 9 août 1944, qui, bien sûr, s'est senti obligé de refuser un tel cadeau, entre guillemets. Vous voyez à quel point, ici, d'un point de vue anthropologique, l'objet est intéressant. Un coupe-papier, qu'est-ce d'autre qu'un couteau inoffensif? Là où, justement, les Japonais avaient la réputation d'être de redoutables combattants au couteau. Comme si, en s'appropriant l'os, une partie du corps de l'ennemi, en le transformant en un couteau inoffensif, on renversait, en quelque sorte, la dangerosité qu'il représente. On est dans un retournement quasi magique, ou en tout cas sotériologique. Troisième pratique, la collecte des dents en or. Bénéfice monétaire, bien sûr, de ces dents en or arrachées de la mâchoire des soldats japonais, mais importance symbolique. Les dents, si vous y réfléchissez un instant, sont la seule partie de notre squelette visible de notre vivant. Pratique de chasse, là aussi, les défenses du gros gibier, que l'on arrache, que l'on coupe, et qui sont conservées par les chasseurs. Là aussi, arracher les dents, c'est animaliser l'autre, et on se dit et on lui dit qu'il est décidément un animal, et un animal en l'occurrence dangereux et hostile. Sachez, et ce n'est pas un détail tout à fait indifférent, que beaucoup de ces dents ont été arrachées avec le couteau des marines sur des corps japonais alors qu'ils étaient encore vivants. Ceci a fini par poser de graves problèmes au commandement américain. Et c'est ainsi que le commandement de la flotte américaine dans le Pacifique, dès septembre 1942, a dû émettre cet ordre. Aucune partie du corps de l'ennemi ne doit être utilisée comme souvenir. Les commandants d'unité prendront les mesures les plus strictes, etc. etc. Ce type de mesures n'ayant que peu dissuadé, visiblement, les combattants américains de continuer ces prélèvements, ces manipulations du corps de l'adversaire. Manipulations auxquelles se sont ajoutées des pratiques profanatrices, comme uriner sur les cadavres, uriner dans la bouche des victimes, etc. Ici, nous sommes devant des pratiques que la grande anthropologue Mary Douglas, dans De la souillure, appelait la magie excrémentielle, avec cette inversion absolument capitale dans les pratiques de cruauté, cette inversion du dedans et du dehors, pratiquée donc sur l'ennemi. En d'autres termes, tout indique que dans le temps de la guerre, un vide moral s'est ouvert devant les soldats américains, dont rendent compte un très grand nombre d'ailleurs de témoignages. Et si à présent on élargit à d'autres conflits, si on généralise un peu en cherchant à aller vers l'interprétation, on s'aperçoit que 4 lieux du corps sont particulièrement visés par les pratiques de manipulation. L'abdomen, d'une part, pratique d'éventration, de dévidement des entrailles. L'appareil génital, pratique de castration. La main et les doigts, particulièrement recherchés déjà dans la guerre du Pacifique, mais aussi en Corée et au Vietnam. La tête et particulièrement le visage, les yeux, les oreilles, l'essoreillement, la coupe des oreilles, le martelage ou la coupure, le martelage du visage, la coupure des lèvres et du nez, la section complète de la tête. Une cartographie, en quelque sorte corporelle, de ces pratiques pourrait ainsi être dressée. Cette énergie meurtrière, investie pour attenter au corps de l'ennemi, se double d'une énergie également très grande dans la mise en scène, dans la ritualisation. Il s'agit d'atteindre bien sûr l'adversaire, mais d'atteindre aussi ses proches, d'atteindre sa communauté, de créer un effet de terreur. Comme le montre très bien, par exemple, le cas colombien, une des sociétés les plus violentes du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les corps mutilés et découpés sont recomposés en corps impossibles, destinés à créer un effet de terreur décisif sur les survivants. Les configurations sont toujours différentes, et je ne cherche pas à vous dire que c'est toujours la même chose. Néanmoins, il me semble que ces pratiques, toutes, parlent un langage de déshumanisation, c'est évident. Le visage, la main, attenter au visage, attenter à la main, c'est une profanation de l'homme, c'est une profanation de l'humain dans l'homme. On le retranche de l'humanité tout en le faisant coïncider avec l'image préalable qu'on a de lui. On lui dit quelque chose et on se le dit à soi-même. La porosité avec la chasse montre que c'est bien d'une animalisation, et je dirais d'une animalisation hostile, qu'il s'agit. L'ennemi est gibier, et à ce titre, il peut être coupé, cuit, façonné, et ses restes conservés. Éventuellement, il est un nuisible, on peut l'enfumer, par exemple, comme les animaux nuisibles. Ce peut être un bétail, une grande partie, par exemple, des massacres en Colombie a eu lieu dans les abattoirs. Mais les marches de la mort sont, dans une certaine mesure, une pratique de troupeau, comme le sont les pratiques de camp derrière les barbelés. Les barbelés ont été inventés pour contrôler le corps des animaux aux États-Unis. En moins d'une dizaine d'années, ils étaient devenus des instruments décisifs de contrôle des corps humains. Manque toutefois généralement la manducation, les pratiques de cannibalisme. Cette animalisation est symbolique. Les bourreaux savent qu'il ne s'agit pas d'un animal. Néanmoins, dans les écoles de torture, par exemple, pour paramilitaires en Colombie au cours des années 90, ou encore au Rwanda pendant le génocide des Tutsis de 94, les pratiques cannibales et de manducation de la chair de l'ennemi sont attestées. Avec les pratiques de profanation dont je parlais, cette magie excrémentielle dont parlait la grande anthropologue Mary Douglas, nous sommes devant une véritable chosification de l'ennemi. Celui-ci n'est rien d'autre que ce que l'on dépose sur lui, il devient une déjection. Ce n'est pas pour rien qu'au Rwanda, les corps ont été découpés puis jetés très souvent dans les latrines des maisons ou des villages. Au centre de ce langage, on peut déceler, je crois, une atteinte systématique à la filiation. Rendre un visage méconnaissable, mettre le dedans au dehors et vice-versa, recomposer après découpe un corps biologiquement impossible, animaliser l'ennemi, ce sont autant de modalités diverses d'atteinte à la filiation. Ce sont des modalités de désaffiliation, de désidentification en termes d'appartenance à l'humanité, qui détruit finalement la notion même d'ascendance et de descendance. D'où la fréquence des atteintes à l'appareil reproducteur. D'où le massacre des enfants, si possible devant leurs parents, ou des parents devant leurs enfants. D'où le viol des femmes, si possible, devant leurs enfants ou devant leurs parents ou devant leurs compagnons. Or, l'affiliation, dans des formes qui peuvent être très différentes selon les sociétés, l'affiliation peut être considérée comme un élément essentiel de la définition de notre humanité. Ce qui est dit à l'autre dans les pratiques de cruauté, ce qui est dit aux morts, ce qui est dit à sa famille, ce qui est dit à sa communauté d'appartenance, c'est qu'il n'est rien, littéralement. Et de ce point de vue, nous sommes confrontés, au fond, à la créativité de ceux qui mènent la guerre, une créativité qui, avec un instinct très sûr, cherche à atteindre et atteint effectivement vraiment le propre de l'homme. J'en viens maintenant pour finir, et dans un temps beaucoup plus bref, à une question difficile, la cruauté des voisins. Les déploiements de cruauté auxquels j'ai fait allusion jusqu'ici s'entendent dans une représentation très agonistique, de agon en grec, le combat, une représentation très agonistique du clivage entre moi et eux. Clivage qui constitue sinon l'explication, du moins l'arrière-plan du déploiement des pratiques de cruauté. La différence entre Américains et Japonais, différence de couleur de peau, différence de stature, différence de langage, etc. Mais on peut maintenant évoquer une configuration toute différente, la cruauté venue des voisins, des proches, du réseau de sociabilité, sans nécessairement qu'existe un antagonisme préalable. Le cas rwandais est particulièrement net de ce point de vue, le cas du génocide des Tutsis de 1994. La documentariste Anna Guion, qui a filmé pendant une dizaine d'années une commune, celle de Ntongwe, près de Gitarama, a intitulé un de ses documentaires en 2009 « Mon voisin, mon tueur ». Cette question de la violence des voisins retient beaucoup l'attention des sciences sociales depuis quelque temps. Violence des voisins dans la Shoah, dans ce qu'on appelle la Shoah par balle, en Pologne, en Ukraine en particulier, où les voisins ont désigné les victimes aux tueurs, tout en participant ponctuellement au massacre en question. Mais ici, sur la base d'un sentiment d'altérité marqué, adossé bien sûr à un antisémitisme très puissant. On est dans une configuration de la différenciation. Violence des voisins, plus compliquée déjà, dans le cas de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. En effet, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, les communautés étaient imbriquées et les relations de voisinage, extrêmement importantes, ce qu'on appelle le komšiluk en particulier, la notion de premier voisin, avec lequel, dans les villages en particulier, le premier voisin avec lequel les femmes, en particulier le café entre les femmes tous les jours, est une obligation sociale et qui concernait les familles bosniaques, croates et serbes. Et d'un seul coup, ces relations se sont coupées à partir du début de la guerre en 92, avec la désignation de l'autre avec lequel on avait toujours vécu, la désignation de l'autre en tant qu'ennemi, l'autre massacré et déporté, dénoncé souvent aux milices, mais parfois avec une participation directe. Ce qui est troublant ici dans cette violence des voisins, c'est qu'elle concerne des voisins avec lesquels on avait toujours vécu, et avec lesquels il n'y avait pas de contentieux, ou en tout cas pas nécessairement de contentieux préalables. Pour le comprendre complètement, on pourrait aussi prendre l'exemple de la guerre du Liban, de 1975-1990, qui est une guerre des voisins, avec cette phrase étonnante du leader druze Walid Jumblatt en 1986, « L'ennemi est à l'intérieur de chacun de nous ». On songe ici à une stupéfiante intuition de Freud en 1917, en pleine guerre, dans le tabou de la virginité. Freud nous dit ceci, « Ce sont précisément les différences négligeables entre des gens par ailleurs identiques qui forment la base des sentiments d'étrangeté et d'hostilité entre eux. » Fin de citation. Au Rwanda, en 1994, une configuration encore différente s'est présentée. Ce n'est même pas le jeu de la différence mineure qui est ici en cause, c'est le jeu de la différence inexistante. Et cette fois, les voisins ne sont pas de simples bystanders. Ils déploient eux-mêmes non seulement une violence exterminatrice, mais toute une gamme de pratiques de cruauté avec une énergie créatrice, si l'on ose dire, avec une énergie créatrice particulière. Les voisins, eh bien, ce sont les gens du voisinage, effectivement, des paysans avec lesquels aucun conflit n'existait parfois, mais aussi les instituteurs qui ont participé au massacre de leurs élèves, des prêtres qui ont contribué au massacre de leurs paroissiens, on est ici dans un cadre intra-catholique, les membres d'une même famille, par soi, qui se sont exterminés entre eux, y compris de parents à enfants. La cruauté a atteint ici le noyau familial, ce qui est une innovation, si je puis dire, tragique dans l'histoire de la violence au XXe siècle. Ceci dans les cas de couples mixtes. L'anthropologue d'origine indienne qui travaille aux États-Unis, Arjuna Padurai, souligne des choses intéressantes. Il souligne qu'une anxiété intolérable peut naître d'une incertitude nouvelle de la vie sociale liée à la fongibilité des identités dans le cadre d'une homogénéisation généralisée au niveau mondial, d'une homogénéisation généralisée des comportements sociaux. Or, c'est le corps de l'autre qui est le théâtre, dit-il, d'enclenchement de l'incertitude. Qui est l'autre? On ne le sait pas. Combien sont-ils? On ne le sait pas davantage. Et donc, le corps de l'autre peut devenir le lieu de pratique de cruauté, si l'on ose dire, clarificatrice. On découpe le corps, pratique de vivisection. On mélange ce corps dans les matières fécales, dans les latrines. Et cette cruauté crée la différence. Je veux dire, crée la différence qui manque. C'est la cruauté, précisément, qui constitue cette différence et qui, surtout, l'approfondit. Une stratégie somatique, une stratégie corporelle, si vous préférez, qui fait chercher l'ennemi au-dedans de son corps. Le massacre et ses déploiements de cruauté apparaissent alors comme une stratégie de définition entre soi et l'autre. L'autre est bien un autre, puisqu'on lui fait ce qu'on lui fait, qu'il est en train de devenir... qu'il devient ce qu'il est en train de devenir sous les coups. On se le prouve et on le lui prouve. C'est une stratégie cohérente et en même temps décevante. Les cruels ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Les tueurs, qui, dans le livre, dans un des livres de Hatzfeld, cherchent la différence entre le cerveau de l'étudiante de médecine et les cerveaux d'autres victimes, sont déçus de ne voir aucune différence. Et cette déception, loin de calmer la cruauté, l'exacerbe, hystérise la vivisection. En regard, je terminerai par cela, cette cruauté crée la stupeur des survivants. On en voit de très bons témoignages de cette stupeur dans les ouvrages de Jean Hatzfeld, en particulier dans Le Nu de la vie, par exemple, paru en 2000. Et je ne prends dans cette masse de témoignages qu'un seul pour terminer, celui d'une femme qui s'appelle Berthe Wanankabandi, donc qui était enfant en 1994. Et elle nous dit ceci, qui témoigne parfaitement de son incompréhension complète de ce qui se joue dans les pratiques de cruauté mises en œuvre par les voisins bien sûr, qu'elle avait toujours connus et en qui ses parents et elle-même en tant qu'enfant avaient parfaitement confiance. Elle dit ceci, « Il y a des Hutus qui ont coupé la gorge de leur épouse Tutsi et de leur enfant qui n'était qu'à moitié Tutsi. Maintenant, je sais que même la personne avec qui tu as trempé tes mains dans le plat du manger ou avec qui tu as dormi, il peut te tuer sans gêne. Voilà ce que j'ai appris depuis et mes yeux ne se posent plus pareil sur la physionomie du monde. » Fin de citation.
Anne-Claude Ambroise Rendu nous parle du fait divers criminel comme baromètre d'une époque.
Au sens strict, parler de faits divers, c'est évoquer un genre journalistique dont l'histoire est indissociable de celle des médias en général. Ce genre est né dans la première moitié du XIXe siècle et s'est particulièrement épanoui, d'ailleurs au début, dans la presse locale. Il est né donc comme nom d'une rubrique très composite, puisque à ce moment-là, au récit des crimes et délits, des catastrophes et des accidents, s'ajoutaient des annonces commerciales, ou des annonces administratives, des comptes rendus de petits événements politiques, des récits de voyages, des récits de fêtes princières aussi, des anecdotes amusantes ou édifiantes, et même quelques dialogues fictionnels. Actuel, transitoire, secondaire, le fait divers était donc la nouvelle du jour qui pouvait être oubliée le lendemain. Mais, récit de presse, il demeurait une affaire d'écriture. Il est d'usage de dater la véritable naissance du fait divers, ou du moins son succès populaire, à la fin du Second Empire. En 1869, l'affaire d'un sextuple assassinat commis par un jeune homme, Jean-Baptiste Tropman, crée la nouveauté, au moins sur le plan commercial. Le récit du crime et de ses prolongements judiciaires fait la une du Petit Journal, ce quotidien populaire qui vient d'être créé, qui a été créé quelques années auparavant, et il lui fournit l'occasion d'une extraordinaire augmentation de tirage. Le nombre d'exemplaires vendus par le journal passe de 30 ou 40 000 en moyenne à 300 000 en quelques jours. Le 15 janvier, jour de l'exécution de l'assassin, le quotidien tire à 594 000 exemplaires et consacre près de 45% de sa surface rédactionnelle à la relation de l'événement. Donc on voit le coup d'envoi qu'a été pour le Petit Journal ce fait divers. En 1868, du reste, c'était l'exploitation de l'affaire des empoisonneuses de Marseille qui avait permis aux petits Marseillais, version provinciale du Petit Journal, de se lancer véritablement sur le marché en augmentant brutalement son tirage. Désormais, donc, l'affaire semble entendue. Le fait divers, et particulièrement le fait divers criminel, s'impose comme la rubrique phare de la presse populaire et commerciale qui se développe avec la Belle Époque. Ignotus, un moraliste, l'affirme en 1890, le Français veut lire un journal, même quand il le trouve ennuyeux, à plus forte raison quand le journal contient une grosse affaire criminelle, mystérieuse, où il y a une sorte de charade, d'énigme à deviner. Fin de citation. Dans ces années, qui sont celles du début de la Troisième République, le fait divers demeure néanmoins une rubrique encore assez largement récréative. Bien sûr, elle raconte les malheurs du monde et des crimes sanglants, mais elle ne néglige pas de raconter les actions héroïques, des sauvetages, quasi miraculeux, des récits comiques, des actes de probité même. Bref, la chronique des faits divers est aussi, à ce moment-là, une chronique heureuse, propre à rassurer le lecteur sur l'humanité. La colonne des faits divers est ce qui fait vendre le journal, parce qu'elle est la rubrique la plus lue et la plus appréciée du périodique, parce qu'elle reflète, me semble-t-il, assez précisément la quotidienneté de ce que vivent les gens, une quotidienneté tissée d'extraordinaire, mais aussi d'ordinaire. Elle raconte le désordre qui rompt la routine, qui scande la routine d'imprévu, mais d'imprévu, somme toute, finalement, assez prévisible. Et donc, elle met en scène une espèce de geste collectif, souvent dramatique, parfois héroïque, ou simplement empreinte de bienveillance et de solidarité. Et puis, progressivement, le fait divers change. Et ceci n'est pas sans lien avec les mutations plus générales, évidemment, qui affectent les entreprises de presse. La professionnalisation des rédacteurs, la naissance du petit reportage, le recours à l'interview et à l'enquête, l'ambition aussi des journaux de dispenser une information à la fois vraie et vivante, tous ces éléments d'une américanisation de la presse qui donc se mettent en place à la fin du XIXe siècle, favorisent la maturation du genre fait divers. Alors, les thèmes positifs ou fantaisistes qui étaient hérités des canards d'antan, ces occasionnels illustrés de gravures sur bois, tous ces thèmes disparaissent assez vite d'ailleurs, pour ne plus laisser place après 1880 ou 1890 qu'à trois catégories qui toutes concernent la violence, la délinquance, les accidents, les suicides. Dans cette classification d'ailleurs, la délinquance l'emporte très nettement dans tous les titres. Elle concerne, bon an, mal an, plus de la moitié des récits de faits divers qui sont alors produits dans la presse. C'est donc le fait divers criminel qui, via le pathos et le sensationnel, domine désormais les rubriques de faits divers et va dominer ces rubriques pendant tout le XXe siècle, et ce d'autant plus que l'entre-deux-guerres voit se développer des hebdomadaires illustrés qui sont exclusivement consacrés aux faits divers, à l'instar du magazine Détective, né en 1928, et dont la diffusion est exceptionnelle. L'hebdomadaire a, entre 1928 et 1999, un tirage moyen de 300 000 exemplaires. La télévision, même si le genre y règne plus tardivement, puisque le fait divers criminel ne s'y impose qu'à la fin des années 60, avant de triompher véritablement dans les années 1980, la télévision n'est pas en reste. Le fait divers y apparaît au départ au sein du journal télévisé, et puis il investit, comme l'avaient fait ses ancêtres dans la presse écrite, d'autres rubriques et d'autres territoires de signification. Dans le courant des années 70, la logique concurrentielle des différentes chaînes de télévision joue bien sûr elle aussi en faveur du fait divers, comme elle l'avait fait exactement pour la presse écrite à la Belle Époque. On assiste alors à la prolifération et à la dilatation du récit criminel, noyé dans une lecture plus sociale, il est vrai, qu'à la Belle Époque. Et on peut dire qu'en l'an 2000, le fait divers règne en maître sur le domaine de la fiction télévisuelle. Les médias, toujours en quête d'actualité, insistent sur ce qui fait événement. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce qu'ils privilégient les moins représentatifs des événements qui font le tissu de nos vies au profit du plus exceptionnel. Les malheurs du monde, on le sait bien, constituent davantage des événements que la routine ordinaire, la violence que la douceur, et même le crime que le délit moins grave. La chronique criminelle n'échappe pas à cette loi. Quand les homicides font bon an mal an 970 morts sur un total de 545 000 décès plus ordinaires, dont un bon quart sont dus au cancer, eh bien, les homicides font la une de la presse écrite et le cœur des journaux télévisés. En insistant sur les désordres du monde, les médias construisent donc des représentations qui, sans être fictives, ont avec le réel un rapport biaisé. Ils ne nous disent qu'une partie du réel. L'autre chose notable est évidemment que les récits de crimes et les discours médiatiques sur l'insécurité n'ont jamais été exempts de présupposés commerciaux et ou idéologiques. Commerciaux d'abord parce que le récit de crime fait vendre du papier et de l'image. La chose est acquise et vérifiée donc dès la Belle Époque. Et ce, d'autant plus qu'il n'exige, pour ainsi dire, aucune compétence préalable. On n'a pas besoin d'être savant pour comprendre ce que le récit de faits divers nous raconte. C'est une actualité facile à mettre en forme, facile à comprendre et à mémoriser pour les lecteurs et les téléspectateurs, et une actualité qui a donc les vertus du spectaculaire. Et en plus, elle offre la matière, on le voit bien, à des commentaires presque infinis. Deuxième présupposé, le présupposé idéologique, parce que les faits divers, contrairement à ce que certains ont pu dire, ne fait pas forcément le vide politique. Il n'a pas nécessairement pour effet de dépolitiser et de réduire la vie du monde à l'anecdote et au ragot. Bien utilisé, au contraire, il comble un vide politique d'un contenu tout à fait exploitable. D'abord parce que, et cela est patent dès la fin du XIXe siècle, on peut donner à tout article une dimension politique, ce qu'indiquait déjà dans les années 1880 Arthur Meyer, qui était directeur du Gaulois, et qui disait à un de ses jeunes rédacteurs « Sachez, monsieur, qu'il y a une manière légitimiste de présenter les faits divers ou de parler du temps qu'il fait ». C'est bien pourquoi la chronologie de l'apparition de certains thèmes de faits divers est parfois, souvent, un décalque très fidèle des débats politiques. Dès 1825, par exemple, la recristianisation des campagnes, entreprise avec l'arrivée au pouvoir de Charles X et des ultras, suscite dans les journaux locaux, hostiles à ce retour de l'Église, de nombreux récits qui racontent les méfaits de curés fanatiques, voleurs, intolérants, brutaux, etc. Autour de 1880, on assiste au même type de déferlement, mais dans la presse radicale cette fois, presse radicale ou simplement anticléricale, hein, on est en pleine période de lutte anticléricale, et donc une partie de la presse met en cause des satyres en soutane, donc des prêtres qui ont attenté à la pudeur d'un certain nombre d'enfants. Tout ceci, on est en 1880, n'est évidemment pas étranger au vote, au cours de cette même année, de la loi qui interdit d'enseignement les congrégations religieuses. En 1910, encore, je pourrais multiplier évidemment les exemples, hein. En 1910, l'assassinat de Madame Gouin, qui était une personnalité, par des soldats, entraîne la mise en cause de l'armée, l'Arche Sainte. La même année d'ailleurs, c'est l'extrême gauche qui est mise en cause lors du crime de Liabeuf. Liabeuf assassine un policier qui était venu l'arrêter. Et Liabeuf est défendu à ce moment-là par Gustave Hervé et par son quotidien La Guerre sociale, Il est défendu par Gustave Hervé, qu'il présente comme un prolétaire révolutionnaire et pas du tout comme un assassin quelconque. Donc on voit bien que ces grandes affaires criminelles mettent en lumière les liens que le fait divers entretient avec le politique. Un certain nombre de discussions publiques sont directement engendrées par les récits de faits divers et ont à plusieurs reprises atteint la Chambre des députés et se sont concrétisées donc sur le plan législatif. Alors récemment, on le sait bien, c'était vrai aussi il y a un siècle, hein. Je citerai simplement la loi de 1910 sur les bataillons disciplinaires de l'armée. Je pourrais évoquer aussi, évidemment, la campagne abolitionniste sur la peine de mort qui se déploie dans la presse entre 1898 et 1907, ou encore les lois de protection de l'enfance de 1889, de 1898. Tout ceci constitue autant de signes de l'importance d'une interaction entre le lecteur, le contenu du fait divers et le législateur. Et donc, dans l'espace public ainsi construit, s'élabore une dimension proprement politique du fait divers. Le fait divers, c'est donc aussi ça, un espace discursif qui fait, avec l'entrée dans l'ère démocratique, l'expérience d'un autre discours et d'une autre action politique. Mais le fait divers dessine aussi les contours d'un paysage mental qui, bien sûr, nourrit les imaginations et les peurs d'une époque. En 1897, 98 et 99, apparaît dans la presse le premier tueur en série, qui est l'assassin Joseph Vacher. C'est un type criminel, comme on le sait, promis à un bel avenir. Alors, ça n'est pas le premier tueur en série, naturellement, c'est le premier tueur en série repéré, et on le doit, en quelque sorte, au progrès technique, au téléphone, au télégraphe sans fil, et aussi, évidemment, à la diffusion d'une presse lue par tous à l'échelle nationale, qui a permis d'identifier l'auteur d'une série de crimes perpétrés sur l'ensemble du territoire français. Donc, voilà, le tueur en série n'est pas un phénomène nouveau, il n'est pas le produit de son temps, ce qu'il est, c'est l'identification qui est devenue possible dans l'espace public. Une ou deux décennies plus tard, c'est la délinquance juvénile qui s'impose comme une figure nouvelle. Dans le contexte de l'industrialisation et de la croissance urbaine accélérée de la Belle Époque, la criminalité de la jeunesse devient un objet de préoccupation. Et ce d'autant plus qu'au tournant du siècle, les médecins commencent de mettre en évidence le caractère pathogène de la puberté. L'adolescent, disent-ils, souvent victime de ces mauvaises lectures, les lois Ferry ne sont pas loin, hein, est un vagabond né, épris de voyage et donc potentiellement fugueur, mais il est aussi animé d'un besoin éperdu d'action qui le conduit donc à mépriser les obstacles, les dangers et les règles et peut le pousser au meurtre. La figure de cet adolescent rebelle, c'est la pache des premières années du XXe siècle, voleur, proxénète, surinaire d'occasion, figure très spectaculaire, qui du reste a commencé par être fascinante, par amuser les lecteurs de la presse, et puis a fini, après 1907, par les inquiéter un peu plus sérieusement, puisque la pache incarnait un nouveau péril, un péril qui se substituait d'ailleurs à la menace collective des révolutions ou des insurrections que le XIXe siècle semblait avoir laissé derrière lui. Donc cette jeunesse incarnait la marginalité des bandes qui se déployaient des boulevards aux faubourgs et qui menaçaient le bourgeois. Plus tard, la même figure, enfin un peu différente, va se recristalliser autour des J3, ces délinquants au sortir de la guerre qui sont à leur tour identifiés comme des figures de la menace. Et puis, quelques années plus tard, autour des blousons noirs, évidemment, dans les années 60. C'est vrai aussi des bandits en automobile qui commencent d'être identifiés et de devenir des protagonistes, des héros de récits avant, mais surtout après la Grande Guerre. C'est vrai du milieu qui connaît son heure de gloire dans les années 60. C'est vrai de la toxicomanie dans les années 70. C'est vrai du viol au cours de ces mêmes années 70, c'est vrai de la pédophilie à partir du milieu des années 80 et plus encore, évidemment, après l'affaire Dutroux. Toutes ces thématiques faits diversières témoignent non pas d'une aggravation de la violence, mais d'une prise en compte médiatique et publique de cette violence, des mots qu'elle entraîne et bien sûr des remèdes qu'elle appelle. Du reste, le rapport des lecteurs et des téléspectateurs à cette exposition publique de la violence demeure ambigu. Quelques malfrats usent avec talent, on le sait, des médias pour une sorte d'autopromotion du mal dont ils savent bien qu'il fait rêver les foules. Plus près de nous, Mérine, dont l'interview accordée en août 1978 à Paris Match est demeurée très célèbre. Ce faisant, donc, les faits divers nous parlent surtout des fantasmes, des peurs en circulation, des obsessions d'une époque et d'un lieu. Et lorsque le fait divers ne répond pas aux attentes préexistantes du public, le récit criminel demeure partiellement ou même totalement sans écho et sans effet. Un seul exemple, le procès intenté à Violette Nozière en 1934. Violette a été accusée d'avoir assassiné ses parents pour leur voler leur magot. Elle est condamnée à mort, sans circonstance atténuante, au mois d'octobre. Violette ne nie pas le crime, mais sa version diffère sensiblement du contenu de l'acte d'accusation. Elle n'a tué son père, dit-elle, que pour se soustraire à ses avances. Et elle n'avait aucune mauvaise intention en ce qui concerne sa mère, qui d'ailleurs en a réchappé. Voilà, donc, ce qui est allégué par Violette, c'est la réalité de l'inceste. Et cette réalité n'est pas retenue par la cour, quels qu'en soient les motifs. Et donc, Violette demeure entièrement, intégralement parricide, sans circonstances atténuantes, donc sans excuses. Avec d'autres écrivains, Marcel Aimé fustige alors la cécité des juges. Je le cite. En condamnant Violette Nozière sans vouloir entendre parler d'inceste, le tribunal s'est montré fidèle à l'une de ses plus chères traditions. Il a voulu affirmer le droit du père à disposer absolument de ses enfants, tout compris, droit de vie et de mort, et droit de cuissage aussi. Voilà, simplement l'esprit du temps ne permettait pas d'accueillir les affirmations de Violette et de reconnaître la réalité de l'inceste, non plus d'ailleurs que, d'une manière plus générale, l'ensemble des violences sexuelles infligées aux mineurs. Il faudra, pour qu'elles soient reconnues, qu'elles soient traitées dans l'espace public, traitées par les médias en tout cas, attendre un demi-siècle. Le silence lourd donc qui pèse sur les violences sexuelles à ce moment-là nous dit quelque chose d'une époque qui refuse d'autant plus d'aborder frontalement ces questions que les victimes sont des femmes et des enfants. Donc pour résumer sur ce point, on peut dire que l'explosion des motifs d'incrimination, l'accès à la connaissance des choses via les médias, plus l'adoucissement général réel tout de même de la société, tout ceci a suscité une intolérance croissante de la part du public à la violence et une émotion décuplée face aux faits divers. Il n'est pas indifférent de noter que les néologismes sécurisation, soient forgés dans les années 1950, en même temps à peu près que sont vulgarisées les théories psychanalytiques. La reconnaissance du besoin de sécurité des individus, celui des enfants en particulier bien sûr, conduit d'une part à la prise en compte du sentiment de peur comme d'un sentiment légitime. Elle impose aussi un glissement du singulier au collectif. Ce qui concerne l'individu concerne désormais l'ensemble de la communauté. Et ce glissement exige évidemment une réponse publique et politique. Donc ce climat sécuritaire nouveau contribue à la réactivation de peurs liées à la criminalité qui avait connu un certain reflux au cours de la première moitié du XXe siècle. Donc cette peur rebondit, elle se cristallise à partir des années 50 et 60 sur la jeunesse qui effraie. Et c'est encore de jeunesse, du reste, qu'il est question lorsque, le soir du 18 février 1976, Roger Jiquel, présentateur du journal télévisé de 20h, lance son fameux « La France a peur ». La police vient de découvrir le cadavre du petit Philippe, donc étranglé par son ravisseur, et le ravisseur a 23 ans. En moins de 2 minutes, le journaliste parvient à répéter 6 fois « La France a peur » ou « Nous avons peur ». Ajoutant quand même, comme pour ménager une place à la raison dans ce discours du pur pathos, et je le cite, « Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. » Et qu'il faut que nous combattions parce qu'il nous conduirait à commettre l'irréparable. Or, cette citation de Roger Gicquel, elle a été souvent oubliée. Et le fait qu'elle ait été oubliée dans sa totalité est un indice intéressant de la manière précisément dont la peur s'est déployée à ce moment-là. La peur n'est pas le seul effet collatéral ou direct de l'intérêt croissant dont les médias ont témoigné pour les faits divers. Cette scène médiatique qu'est le fait divers a aussi permis d'installer dans l'espace public, c'est-à-dire en l'occurrence l'espace de visibilité dessiné par les médias, des gens ordinaires, des victimes de violences et de crimes. Ce faisant, les médias ont assuré la promotion d'une oubliée du code pénal au nom du dommage subi et qui, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l'emporte en importance et en visibilité sur le ministère public et la nécessité de retour à l'ordre social. Cet oublié du code pénal, c'est la victime. C'est une victime qui était peu considérée, qui était peu prise en compte avant justement qu'elle soit invitée, pour le dire brutalement, sur les plateaux de télévision. La télévision donc a joué un rôle tout à fait fondamental dans le passage de l'intérêt pour le crime à l'intérêt pour la victime. L'attention des chroniqueurs donc s'est déplacée du box des accusés pour venir recueillir à partir des années 1990, c'est très sensible, la colère et les larmes des victimes dans les couloirs des palais. Les plateaux d'émission donc ont été envahis par les victimes venus témoigner de leur malheur. Et puis, l'image de télévision s'est immiscée aussi dans l'intimité des familles et a rendu, évidemment, plus sensible la perception de la violence, en même temps qu'elle mettait à l'épreuve, évidemment, le seuil de tolérance des téléspectateurs à l'égard des comportements criminels. Alors, je finirai en évoquant trois points. Premier point, ce qui n'a pas changé. La colonne des faits divers est demeurée, depuis qu'elle est née, ce récit commun d'une vie partagée, avec ses aléas, ses péripéties, parfois burlesques, ses horreurs plus souvent. Et donc elle se donne à lire comme la narration fragmentée, mais continue, quotidienne, d'une existence, l'existence de tous, où tous communient, par-delà les motifs de division. Deuxième point, ce qui a notablement changé depuis la naissance du genre fait divers, c'est que la violence la plus spectaculaire y est de plus en plus présente, au détriment d'autres événements plus ordinaires de l'existence quotidienne. Cette évolution donc tend à réduire les faits divers au seul récit de crime, au point qu'on en est donc venu à confondre faits divers et crimes ou délits. Du même coup, le miroir que nous tendent ces rubriques de faits divers est un miroir largement déformant qui conspire à dessiner les contours d'une société violente comme gangrénée par la délinquance et le crime. Alors, troisième point, en ce sens, pour répondre à la question initiale, le fait divers est bien le baromètre d'une époque, mais il l'est au sens où il renseigne sur... D'une part, certaines évolutions anecdotiques, l'apparition des bandits en automobile nous renseigne sur l'utilisation de l'automobile à pétrole. Mais surtout, il est le baromètre d'une époque au sens où il est l'instrument de mesure d'un climat social. Il est aussi le produit d'une époque, le fait divers. Notre époque, soumise à une exigence de visibilité totale, à l'empire des médias, pour le dire autrement, une époque qui aime se faire peur et qui, comme le montre l'histoire du pénis, a encore et toujours besoin de distraction.
C'était Éloge du savoir ce soir. L'Université de tous les savoirs, avec Anne-Claude Ambroise-Rendu et Stéphane Audouin-Rouzeau. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l'UTLS et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour suivre une nouvelle conférence donnée dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.